propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment prévenir les dérapages lors des manifestations publiques? Vous savez, le droit de manifester pour revendiquer ceci ou cela, ou ce droit, est reconnu à tout citoyen, mais cela doit se faire dans le respect des dispositions légales. Cependant, il arrive parfois, on note des dérapages, des pillages, des affrontements entre la police et les manifestants. Alors, que faire pour prévenir ces gens des situations, ces incidents lors des manifestations publiques, et surtout lorsque des manifestations qui sont censées être pacifiques. Pour en parler, nous recevons Étienne Vivien Calongi, politologue et chercheur en résolution non violente des conflits. Il intervient depuis Kikwit. Étienne Vivien, encore une fois, bonjour.
Bonjour, très cher patriote, je dis Daniel Kassama.
Alors, nous parlons des manifestations publiques et des incidents, des dérapages qui peuvent survenir. D'abord, dites-nous, c'est quoi une manifestation publique?
Oui, une manifestation publique, c'est le déroulement d'une manifestation qui se réalise sur la voie publique. Elle est diverse. Cette manifestation peut revêtir la couleur d'une marche telle que nous l'avons vu hier. Elle peut revêtir la couleur d'un sitting, c'est-à-dire d'un mouvement des personnes qui se mobilisent pour rester quelque part à un endroit symbolique en vue de revendiquer leurs droits. Elle peut aussi se manifester sur une action du genre « lie-in », dormir par terre pour revendiquer quelque chose, ou aussi une action de boycott. Mais dans ces diverses manières et dans ces divers détails, la manifestation, quand elle se réalise sur la voie publique, elle revêt alors un caractère qu'on appelle public, parce que c'est au vu aussi de tout le monde qu'un homme, un groupe d'intérêt se donne le luxe de s'imposer pour faire prévaloir ses droits. Alors, généralement, ces genres d'actions, comme se réalisent sur la voie publique, doivent nécessairement se préserver dans la non-violence pour que cela puisse avoir un dynamisme événementiel dans le caractère de la revendication.
Alors, quelles sont les conditions à remplir pour organiser une manifestation publique?
Les conditions à remplir, c'est conformément à la loi, parce que nous sommes dans un État. La Constitution permet aux individus et aux personnes, aux citoyens congolais, selon son article 22 et 23, de manifester, mais conformément à la loi, conformément au respect des dispositions légales. Et nous sommes dans notre pays, pour le cas d'espèce, dans un régime d'information. Lorsque les différents groupes d'intérêt décident de manifester, qui n'est qu'une action démocratique, parce qu'il faut qu'on se le dise, que l'actuelle conception de la démocratie moderne, avec un grand sociologue comme Alain Touraine, consiste à permettre la pénétration du plus grand nombre de citoyens dans le processus décisionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une analyse approfondie de constater que la démocratie représentative représenté par le Parlement a manifesté ses limites, et que dès lors qu'un groupe d'intérêt, une catégorie sociale se trouve lésée dans ses droits, a toute la possibilité d'informer l'autorité publique de son intention de manifester pour contester une loi ou une injustice donnée, mais conformément au respect des dispositions légales du pays. Cela veut dire que ces groupes d'intérêt ne vont pas ici se verser dans la violence pour casser, incendier, injurier ou peut-être empiéter les droits des autres, mais ils doivent le faire dans le mécanisme fonctionnel de la non-violence pour que ces actions-là, lorsqu'elles se déroulent, puissent ici séduire la conscience de l'opinion publique qui, du reste, n'est pas concernée à ces différents intérêts revendiqués par ces groupes, mais seulement dans la détermination et dans l'esprit d'abnégation qui prévaut dans le chef de ces groupes. Oui. Il y aura maintenant une séduction qui pourra se suivre par la suite au regard de la tierce partie qui est l'opinion nationale qui n'est pas concernée à ces revendications. Mais plus les gens sont déterminés à revendiquer leurs droits du jour le jour et dans la non-violence, dans le respect des lois, cela peut entraîner une séduction auprès du reste des concitoyens qui pourront peut-être par la suite les rejoindre et ensemble enclencher un processus qui du reste par le pouvoir établi tarde à venir.
Alors oui, Étienne, oui. Que peuvent être les raisons qui font qu'une manifestation censée être pacifique, mais après tourne au drame?
C'est le manque d'organisation au préalable par les initiateurs d'une manifestation. Nous sommes dans une démocratie. Lorsque vous vous sentez lésé, je prends l'exemple ici pour bien édifier nos auditeurs, nous sommes ici avec les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec cette manière de voir les choses, de permettre à ce qu'on puisse refondre le processus d'enrôlement qui du reste va nous entraîner dans un glissement en violation réellement des dispositions constitutionnelles qui consistent à permettre au chef de l'État actuel de pouvoir rendre tablier le 19 décembre. Mais dès lors qu'on n'est pas d'accord avec cela, on demande à la population de descendre dans la rue. Au départ, avant de demander, il faut que ces organisations politiques, ces organisations sociales prennent le temps de former un corps, un service d'ordre interne dans leur manifestation pour encadrer tous les manifestants qui viendront répondre afin que leurs actions demeurent dans la non-violence. Parce que dès lors que vous entraînez les milliers de personnes de descendre dans la rue, vous ne savez pas que dans le camp adverse, on peut avoir une vision négative de nuire à vos actions qui du reste voulaient être pacifiques ou non violentes, mais on peut ici lever des contre-manifestants qui vont infiltrer vos manifestations et les réduire dans la balance de la violence. Ou carrément, si vous n'avez pas prévu cette organisation au préalable, avant de pouvoir aller dans l'action directe collective dans la rue, si vous n'avez pas prévu cela, comme on vient de le constater, vous verrez que les manifestants seront infiltrés par d'autres personnes mal intentionnées qui, ne connaissant pas les mobiles et les objectifs de la marche, vont alors se permettre d'aller casser, piller, brûler, incendier les biens d'autrui. Et si ces manifestants aussi ne sont pas aussi préparés d'affronter la répression policière, parce que cet affrontement-là devait se faire dans le fonctionnement de la connaissance de la philosophie de la lutte non-violente. Vous manifestez dans la non-violence, sans armes, sans même une cure-dent pour se défendre devant la répression policière. Et dès lors que la répression est brutale et criminelle, vous avez dans le rang de vos propres manifestants qui sont encadrés par un corps de volontaires, une presse interne, des chasseurs d'images internes qui doivent permettre le désenclavement de la crise, qui doivent présenter aujourd'hui au monde entier, parce que nous sommes aujourd'hui avec la révolution technologique, nous sommes là dans un village planétaire. Étienne, il y a lieu, au lieu d'attendre que le journaliste de la Radio Capi puisse venir voir et retransmettre sur les ondes de la Radio Capi ce qui se déroule quelque part, vous déjà à l'interne, vous avez une presse interne, vous avez des blogueurs, vous prenez les images, vous les désenclavez pour montrer qu'il a pris l'initiative de recourir à la violence alors que nos actions se voulaient être des actions non violentes. Si ces choses ne sont pas préparées au préalable, vous qui avez demandé les gens de descendre dans la rue, vous prenez la responsabilité de tous les actes illicites qui sont ici orchestrés dans la rue sur votre dos, parce qu'au départ vous n'avez pas compris que la rue est un terrain de prédilection, fondeur d'un rapport de force, et qui du reste vous devez le maîtriser, vous devez la maîtriser pour vous permettre réellement de vivre les prouesses de la démocratie qui permet au souverain primaire de s'exprimer.
Oui, Étienne, nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Vous avez dit tout à l'heure, avant de pour prévenir les dérapages, il faut que les organisateurs des manifestations manifestation publique forme un service d'ordre intérieur, un corps des volontaires qui pourra encadrer les manifestants. Nous avons deux auditeurs en ligne, Eric Ngoy de Kinshasa et Christian Mwanda de Kananga. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment prévenir les dérapages lors des manifestations publiques? Eric Ngoy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Ma question est ceci.
Oui?
Je voulais poser à l'invité, je voulais savoir, une manifestation publique qui est autorisée, bon, lorsqu'il y a dérapage, on prévient le dérapage, mais lorsqu'il y a dérapage, n'y a-t-il pas un autre moyen de réprimer les manifestants plutôt que de tirer à balles réelles et déplorer des morts tels qu'on l'a dit hier?
D'accord, merci. Christian Mwanda, vous êtes à Kananga. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour. Je dis bonjour à Vivian Kalonji que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours aimé dans ses interventions. Ma petite question est d'abord suivie par une petite explication qui va pouvoir éclairer à notre invité de me répondre. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé hier. L'opposition qui a organisé sa manifestation n'est pas partie prenante au dialogue. Alors vous comprenez que tout ce qui va sortir du dialogue ne pourra plus l'engager et ça fera normalement peur au pouvoir en place. Alors, tellement qu'elle a organisé sa manifestation et qu'il y a eu des rapages parce que l'opposition n'a pas l'armée. Et pourtant, c'est le pouvoir en place qui a l'armée. Il y a eu des morts. À qui est-ce qu'incombera normalement cette faute-là? Parce que normalement, on sait comprendre que c'est eux, le gouvernement, qui ont normalement orchestré ces dégâts-là pour pouvoir incriminer l'opposition qui n'est plus au dialogue qui ne pourra plus prendre part à les résolutions.
La question est de savoir à qui apporte la responsabilité de tous ces dérapages.
Ok, la deuxième question est que, surtout que la ville de Kinshasa est vaste, qu'il y a beaucoup de coins, et les gens devaient se rencontrer à un endroit. Et puis, il y avait des barrières déjà depuis la nuit. Alors, comment est-ce que les gens pouvaient quitter, traverser ces barrières-là, sans dégâts, pour arriver à l'endroit du rassemblement, pour commencer leur marche? Comment est-ce que l'opposition pouvait prévenir à ça, pour qu'il n'y ait pas des dérapages? Voilà, parce que ce sont des facteurs qui ont causé, normalement, hier, les dégâts à Kinshasa. Alors, notre invité peut nous aider quand même avec...
Merci. Merci Christian de Kananga. Etienne Vivien, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je dis Daniel Kachama. Je réponds directement à mon patriote Eric Ngoy qui voulait savoir si une manifestation autorisée, lorsqu'il y a des rapages, y a-t-il une responsabilité à partager.
Oui, Eric a dit, lorsqu'on tire à balles réelles sur les manifestants, alors, donc ça tourne au drame, alors il dit qui emporte la responsabilité?
La responsabilité ici incombe premièrement à l'État, l'autorité censée préserver les personnes et leurs biens, parce que nous sommes dans une démocratie et nous sommes dans un monde civilisé, toute vie est sacrée. Même la vie d'un incivique, il est sacré. Même la vie d'un criminel est toujours sacrée. Voilà pourquoi la Déclaration des droits de l'homme a aussi soutenu la présomption d'innocence. C'est-à-dire que le pouvoir doit recourir par des moyens non létaux pour ici contenir les manifestants qui veulent verser dans la violence. Et non recourir aux balles réelles pour tirer sur des personnes qui au départ n'avaient pour objectif que de revendiquer leurs droits qui se trouvent être lésés. Voilà pourquoi la première responsabilité revient à l'État. Mais la deuxième responsabilité revient aussi aux organisateurs de la manifestation, qui du reste n'ont pas eu le temps de comprendre ici, avec la pensée du professeur Joseph Kizerbo, paix à son âme, qui disait qu'en arme illégale, c'est un suicide de se déclarer la guerre. C'est-à-dire, la population n'a pas des armes. Et lorsqu'elle veut manifester, cette population-là doit être formée. Parce qu'en réalité, les partis politiques doivent savoir qu'ils ont pour mission traditionnelle la socialisation politique de leurs membres. Dès lors qu'ils forment un service d'ordre interne, ce service-là doit être au prorata de nombre de milliers de personnes qui peuvent accepter de descendre dans la rue. Et ce service-là doit encadrer ces manifestants selon la vision d'une forme géométrique à l'image d'un rectangle. Au devant, vous avez des corps de volontaires, aux à côté et en arrière. Et on fait entrer à l'intérieur les manifestants pour les orienter à ne pas se verser dans la violence. Et dès lors qu'ils acceptent la philosophie du combat non-violent, ils vont ici montrer à la face du monde que nous manifestons dans la non-violence, nous contrôlons les manifestants, mais voilà que la primaire, l'initiative de la violence émane de l'État. Et dès lors qu'on sait comment désenclaver cette situation, le monde entier verra que réellement le pouvoir a recouru à la violence. Il y a eu mort d'homme, il y a ici possibilité de répartir les responsabilités. Qui a pris l'initiative de tirer sur les manifestants, qui a pris l'initiative de bastonner les gens qui manifestent dans la non-violence. Et ensemble, avec cette action-là, il y a lieu que les organisateurs puissent préserver les manifestants de ne pas utiliser les propos violents, lesquels propos peuvent les verser facilement dans la violence. Oui. Mais il y a beaucoup de techniques, parce que j'en ai écrit tout un ouvrage, un condensé de plusieurs ouvrages sur le combat non-violent, où j'ai intitulé « Initiation à l'activisme civique et non-violent, manuel des résistants ». Il sera publié incessamment, dans lequel nous parlons un peu de la démoralisation de la crise. Comment ici on peut chercher à introduire de l'humour dans le chef des manifestants pour qu'il ne soit pas sur les nerfs afin de verser facilement dans la
oui.
violence.
Oui, Etienne.
Pour répondre à mon patriote Mwanda, oui. qui parlait la responsabilité va incomber à qui hein, pour les morts oui. que nous avons connus.
Oui,
comme je venais de le dire, c'est une question qui se ressemble à celle d'Eric.
Oui,
la responsabilité sera entre les deux parties.
Etienne.
Du côté du pouvoir, pour avoir ici réprimé brutalement et à sang une manifestation qui du reste se voulait être pacifique, alors que la police doit utiliser les moyens non létaux pour contenir les manifestants et préserver les biens d'autrui. Et les organisateurs aussi ont une responsabilité morale pour n'avoir pas préparé au préalable les manifestants avec un corps de volontaires, un service d'ordre interne,
oui.
pour que ces derniers ici ne puissent pas verser facilement dans la violence.
Etienne.
Parce que quand ils versent dans la violence,
Etienne.
Leurs actions ne seront plus ici crédibles aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale.
Etienne.
Et leurs actions ne vont pas ici s'encadrer dans un dynamisme événementiel.
Etienne.
C'est un jeu de rapport de force.
Etienne.
Et quand vous voulez tenir tête à celui qui vous prive un droit donné, vous devez le faire dans une stratégie qui vous permet d'élargir cela dans un dynamisme événementiel.
Etienne.
Mais que vous permettez les casses,
Etienne.
Vous brûlez, vous incendiez, vous vous faites infiltrer par les contre-manifestants, vous vous faites avoir par le jeu de la police qui a été peut-être envoyé pour vous arrêter de ne pas continuer vos actions. À ce moment-là, vous avez fait le jeu du camp adverse, vous n'avez pas compris que vous devez ici utiliser une autre technique de combat qui, du reste, vous donnera la possibilité d'avoir raison sur les revendications ici avancées.
Voilà, Etienne, nous allons accueillir deux autres auditeurs qui sont en ligne, Gaël de Lumbashi et ingénieur Mangoyo de Kinshasa. On commence avec vous, Gaël, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute?
Oui, j'en ai juste posé des questions à notre invité du jour. Parce qu'il parle de. Parce que nous parlons du sujet qui fait allusion aux manifestations qui se sont déroulées hier à travers la République. La première question est celle de savoir comment, comme la manifestation, comme il y a eu des rapages hier, alors. Comme nous sommes aussi partis, comme nous faisons aussi partie des droits de l'homme, alors, comme il y a eu des rapages, est-ce que le gouvernement aura à payer l'argent au niveau des agents des droits de l'homme ou pas? La deuxième question est celle de savoir, parce que l'invité nous parle de manifestations et comment parvenir à éduquer la foule. Mais il n'oublie pas que la foule, on a toujours dit que la foule n'a pas d'âme. Comment voulez-vous que l'on puisse éduquer la foule s'il y a attaque? Alors, l'attaque a toujours eu comme réponse comme contre-attaque. C'est-à-dire, lorsqu'il y a attaque, la foule aussi va répliquer. Alors, comment parvenir à éduquer une foule qui n'a pas d'âme? Ce sont les deux questions que j'avais à poser à l'invité.
Merci, Gaël de Lumbashi. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question? Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Allô?
Oui, allez-y.
Oui, je disais que merci de me voir accorder la parole. J'ai quelques préoccupations que je voudrais partager avec notre invité.
Oui.
Monsieur Jolie, moi je voudrais un peu poser la question à notre invité. Est-ce que notre invité peut nous dire si les autorités de notre pays ont bien compris notre législation en ce qui concerne la manifestation publique, parce qu'on dit que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Est-ce que les autorités de notre pays ont vraiment intériorisé ce régime-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle attitude la police doit-elle adopter face aux manifestants qui m'affectent par moment et provoquent un peu la police? Est-ce qu'en ce moment-là, la police doit-elle répondre à la simple provocation en tirant avec des balles réelles ou en lançant des gaz lacrymogènes? Est-ce que cette réaction-là est tout à fait normale? Troisième préoccupation, est-ce que lorsque le cas, par exemple, d'hier, il y a eu un objectif dans cette manifestation? Nous espérons que, nous croyons que lors de leur, disons, rencontre avec le gouverneur, ils se sont dit des choses et ils ont expliqué les objectifs de leur marche. Est-ce que vous trouvez normal qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif et qu'on puisse déjà disperser les gens? Est-ce que là n'est pas une sorte de préméditation? Et enfin, comment expliquer le fait que les gens qui manifestent, parce qu'on a parlé des opposants qui ont été blessés, notamment Martin Fayoulou, comment expliquer le fait que quelqu'un qui est à l'avant-plan, il manifeste avec les autres, c'est-à-dire qu'il marche, il puisse être atteint par des balles réelles et des pierres, des jets de pierres? D'après notre invité, comment cela peut-elle être expliqué? Merci beaucoup.
Bien, merci. Rousseau et Tamatadi, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, ma question est de savoir, sous notre ciel, nous voyons que quand il y a marche, il y a cordon de policiers de gauche à droite des manifestations. Mais hier, les manifestants ont pillé les barrières et les pièces des ligues des jeunes, des PPDX, et tout vers le 5e côté industriel. Ils ont encore pillé les barrières qui se trouvent au 4e au niveau résidentiel. Donc, c'est comme si les manifestants n'étaient pas d'abord encadrés par la police. L'invité nous parle beaucoup des partis doivent encadrer les manifestations, mais ne parle pas aussi que la police aussi devrait les encadrer. Alors, quelle sorte de formation les partis doivent donner à leurs manifestants pour ne pas tomber dans ces genres de pièges? Car s'ils commencent à les former, comment on peut éviter des balles? N'est-ce pas ça encore l'État ne veut pas l'air les accuser de former des rébellions ou des milices? Merci beaucoup.
D'accord, merci pour toutes ces questions. Étienne Vivien, vous avez suivi, Gaël nous dit que la foule n'a pas d'âme. Alors comment arriver à éduquer cette foule pour éviter les incidents, les dérapages?
Oui, je salue tous les compatriotes pour avoir participé à cet échange. Je réponds à Gaël qui dit que la foule n'a pas d'âme, il a raison, la foule n'a pas d'âme, mais la foule doit être éduquée, la foule est censée être éduquée. Voilà pourquoi nous, dans la philosophie de la lutte non-violente, nous disons, cette grande foule-là, on éduque un échantillon qu'on appelle un corps de volontaires, un service d'ordre interne. Nous qui préparons, je prends l'exemple de ceux qui prennent l'initiative de préparer des manifestations publiques, à leur niveau déjà, dès le départ, devant le calendrier de leurs actions, ils doivent d'abord se donner le luxe de commencer par préparer un corps de volontaires. Un corps, comme je le disais, doit répondre au prorata du nombre des gens que nous espérons attendre sur notre appel dans les manifestations. C'est ce corps de volontaires que nous allons inculquer la philosophie du combat non-violent, la préservation de nos actions dans la non-violence, pour que ces actions aient un dynamisme événementiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à des dates précises, les gens peuvent descendre dans la rue sans casser, sans incendier, sans se faire infiltrer, sans se faire avoir pour avoir pris l'initiative de commettre des actes illicites. Mais c'est ce corps corps-là maintenant qui va encadrer, parce que ce corps-là sera identifié lors du déroulement des actions. Ce corps des volontaires aura des brassards, comme l'avait réalisé Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Ce corps des volontaires, comme l'avait aussi fait un grand icône de la philosophie de la lutte non-violente, qui est Mahatma Gandhi. Donc, ce corps des volontaires est censé encadrer des milliers de personnes qui constituent cette foule-là. Dès lors que ce corps est formé au prorata des nombres attendus des manifestants, il a lieu d'encadrer les gens pour qu'ils ne se déversent pas dans la violence. En dehors de la formation théorique, il y a une formation sportive. Les volontaires ont une formation sportive du sport que nous appelons Aikido. Ces gens sont censés neutraliser toute infiltration interne dans les chefs des manifestants qui veulent orienter les autres dans les actions illicites de la violence. À ce moment-là, on les neutralise et en collaboration avec la police qui représente l'État, on fait sortir ces infiltrés pour les donner aux mains de la police. Mmh. Et ces actions se déroulent, bien sûr, avec une grande mobilisation de ressources. Il y a des avocats bénévoles, il y a des ressources financières à mobiliser, il y a des talkie-walkies qu'on a donné auprès des volontaires, il y a des mégaphones pour instruire, même les slogans, même les chansons, afin de préserver le psychose, le psychique des manifestants, afin qu'ils ne se mettent pas dans la violence.
Alors, oui, Étienne, nous avons également Rousseau qui a dit, mais lorsque les organisateurs de la manifestation ont déjà informé l'autorité, et d'après lui, la police était aussi censée coordonner, n'est-ce pas, encadrer les manifestants de part et d'autre pour éviter les dérapages.
Oui, cela dépend de l'action que la police doit réaliser dans un régime donné. Si nous sommes réellement dans une démocratie, comme des pays de vieilles démocraties comme en Europe, la police n'a que pour rôle d'encadrer les manifestants afin qu'ils ne puissent verser pas dans la violence. Cette police-là doit les encadrer dans surtout les trajectoires. Mais si vous êtes dans un régime répressif où on ne tolère pas les manifestations, il est très important aux organisateurs de ne pas croire à la sincérité du rôle que doit jouer la police. C'est eux seuls qui doivent savoir ce que nous voulons, quelle tactique, quelle technique devons-nous utiliser pour avoir raison vis-à-vis de l'opinion nationale qui nous observe dans le déroulement de ces rapports de force qui est établi entre ceux qui revendiquent et ceux qui refusent leurs revendications, qui est le pouvoir. Donc, attendre que la police joue son rôle, il faut rêver parce que il faut se réaliser quelle est la lecture qu'on se donne dans le régime que nous avons, qui se veut être démocratique, mais qui dans la pratique refuse toute expression des libertés ou des manifestations de la population. Voilà pourquoi nous disons qu'il incombe d'abord aux organisateurs eux-mêmes de faire une analyse approfondie, de comprendre quel type de police que nous avons, même s'ils ne peuvent pas nous encadrer dans le trajectoire que nous menons, comment pouvons-nous de nous-mêmes déjà nous imprégner de la philosophie du combat non-violent. Laissez-moi d'abord rappeler aux auditeurs que ce dont je parle ne sont pas des théories vaines. Ces théories, il a fallu 250 ans, il a fallu 250 ans que les afro-américains noirs puissent devenir des citoyens américains. Et l'histoire nous donne raison aujourd'hui parce que Jesse Jackson avait fondu en larmes lorsqu'il a vu le rêve de Martin Luther King se réaliser avec l'avènement de Barack Obama aux affaires. Martin Luther King, qui a mené un combat non-violent des revendications des droits civiques, a pu encadrer des milliers et des milliers de manifestations face à une police qui était dominée par des préjugés d'ordre raciste. Le noir ne pouvait jamais faire quelque chose de meilleur, le noir ne pouvait jamais contenir le respect des droits civiques, mais il a fallu qu'un jeune homme à l'âge de 26 ans puisse signer de son propre sang une grande révolution non-violente qui a permis aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique d'entrer dans l'histoire avec le combat non-violent.
Oui,
il en a initié par Mahatma Gandhi qui a commencé le combat en 1917.
Etienne.
Et jusqu'en 1947, il a donné l'indépendance à l'Inde.
Etienne, nous avons deux autres auditeurs en ligne, on va les accueillir. Et puis vous allez répondre aux autres questions des auditeurs. Comment prévenir les dérapages lors des manifestations publiques? On en parle avec Etienne Viviane Kalonji. Il est politologue et chercheur en résolution non violente des conflits.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment prévenir les dérapages lors des manifestations publiques? Édouard Mukandiloa, vous êtes à Kindu et Kapalamanda nous appelle des Moba. Édouard, bonjour.
Bonjour, Radio Gambi. Je ne suis pas à Kindu, mais je suis à Kinshasa.
Vous êtes plutôt à Kinshasa, d'accord, merci. Pour la correction, rapidement, quelle est la question?
La question, je voudrais savoir, je voudrais poser la question à l'invité. Il a bien décidé que les tels crises sont des cycles de rapport des forces, c'est-à-dire quand on organise une marche, et une marche populaire, bien sûr, c'est une question des rapports des forces. Et lorsque maintenant la police qui est censée, entre guillemets, être neutre, se transforme à une milice contre cette population, et doit, normalement, comment doit agir la population vis-à-vis à une police qui se transforme à une milice? Ma deuxième question est de savoir, avant, moi je vous parle de ce que je veux dire, avant la manifestation, avant même que les gens se rencontrent aux endroits, à l'endroit approprié qui était le changeur pour commencer à marcher, déjà au camp, au campus de l'INSTUN de l'Université de Kinshasa, les policiers et les soldats, je dis bien les soldats, qui étaient armés jusqu'aux dents, entourer déjà l'inutile pour empêcher à ce que les étudiants aillent à la marche. Ils n'ont pas encore commencé la marche, mais ils devraient aller à l'endroit où l'endroit des rencontres était approprié. Vis-à-vis de toutes ces répressions, que devrait faire la population?
Et merci.
Je voudrais à ce que notre invité soit un peu pragmatique. Ces personnes ne peuvent pas avoir tort à la fois et avoir raison à la fois. Les vrais responsables, il nous dit, d'une part, ce sont les organisateurs, d'autre part, c'est le gouvernement. Le cas sous examen, la police a tiré, et parfois, ce n'était pas des policiers, parce que moi, j'ai vu des militaires qui étaient sur le terrain, qui sont réellement les responsables. Parce que, oui, bien sûr, la population a brûlé un policier, parce qu'il s'est trouvé aussi dans l'incapacité de résister sans faire quelque chose, chose que moi je trouve normale. Qui sont vraiment
d'accord.
Responsables?
D'accord, qui sont responsables? D'accord, merci Edouard. On va accueillir Akapala qui attend depuis Moba. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jedi Kachama, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Akapala?
Et pour qu'on ne s'étonne pas du fait que je dis que les politiciens congolais veulent prendre la population congolaise en otage, où ils veulent compromettre la population congolaise.
Allez-y directement à la question, posez directement la question, Kapala.
Pendant la manifestation, c'est qu'il y a un « ça ne va pas ». Mais alors, comment prévoir tous ces débordements lors de la manifestation, quand bien même nos responsables ne respectent pas la loi? Si nos responsables respectaient la loi, on n'aurait dû pas avoir
Kapala.
Tout ce genre de manifestation.
Kapala, oui. Oui, Kapala, quelle est la question que vous adressez directement à l'invité?
Oui, la question que j'adresse directement à l'invité, comment est-ce que vous voulez éviter les débordements lors de la manifestation tant que les responsables ne respectent pas la loi?
D'accord, merci.
Ma brève question.
D'accord. Merci à Kapala de Moba. Étienne Vivien, je reviens à la question de l'ingénieur Mangoyo qui dit que nous sommes sous le régime d'information. Est-ce que les autorités ont intériorisé ce principe? Et puis, il veut savoir comment la police répond aux provocations des manifestants. Et il dit, faut-il disperser les gens ou les placer des barrières avant même que les gens ne puissent se retrouver au lieu de rassemblement pour démarrer la marche?
Oui, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent.
Oui.
Je voudrais bien préciser à nos compatriotes que la police dans une démocratie ne peut pas interdire une manifestation, une expression des libertés permis par les dispositions constitutionnelles. La police doit réellement jouer son rôle d'être neutre et de permettre que les personnes, la majorité silencieuse qui constitue la population, puissent s'exprimer librement. Et cette police a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Cette police-là doit encadrer ces manifestations-là de sorte que parmi les manifestants, s'il y a des gens mal intentionnés qui veulent faire autre chose, cette police utilise les moyens non létaux. Les moyens non létaux, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser les balles réelles, il faut utiliser les matraques. On peut utiliser le lacrymogène si on trouve que nous sommes devant un débordement massif. On peut utiliser le gaz lacrymogène qui, du reste, ne tue pas, mais permet tout simplement de dégager une foule de personnes mal intentionnées cherchant peut-être à piller ou incendier un bâtiment privé ou public. Mais la police, dans le régime qui est le nôtre, il se permet de jouer le rôle similaire à une milice pour empêcher ceux-là même qui veulent aller au lieu de rassemblement pour manifester. Cette police-là a eu pour mission, comme service d'ordre du pouvoir, de contenir les manifestants. Et c'est là où maintenant j'arrive à responsabiliser les politiques de l'opposition. Parce que lorsqu'on fait la politique, on sait comprendre que nous sommes à la recherche de la réalisation de l'intérêt général. Nous qui sommes spécialistes à cette question-là, nous opérateurs politiques, devons encadrer ceux qui n'ont pas ces connaissances civiques de revendiquer au prix même du sacrifice physique, du sacrifice suprême. On encadre les manifestants à s'attendre devant des scénarios du genre « on vous empêche de rejoindre le lieu de rassemblement ». C'est alors que le corps des volontaires doit encadrer les manifestants pour maintenant, ici, affronter cette police-là dans la non-violence, dans la résistance active non-violente, sans recourir à une cure d'eau, sans recourir au jeu de pierre. Parce qu'en recourant au jeu de pierre, vous versez dans la violence, vous donnez à l'État de la raison de vous réprimer parce que puissance publique revient à l'État dans une démocratie.
Oui, alors, voilà Étienne, pour terminer, on n'a plus assez de temps. Alors, on voit que déjà la tension est montée d'un cran. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour désamorcer cette tension et puis afin que les esprits se calment?
Pour désamorcer cette tension, la question est simple. Le pouvoir ne doit pas faire le sourd oreille au devant des revendications et aux expressions populaires comme nous l'avons constaté sur toute l'étendue de la République. Le pouvoir doit comprendre qu'il doit arrêter avec les négociations, les dialogues qui se tiennent à la cité de l'Oya pour la faire avec le rassemblement qui a de l'ancrage dans le chef de la population. Comme le rapport de force s'est exprimé sur toute l'étendue de la République, on doit dialoguer avec une force en présence. On ne dialogue pas avec un groupe d'individus qui n'incarne pas un ancrage dans le choc de la population. Et dès lors que les négociations vont s'opérer entre la majorité et la vraie opposition, qui n'est pas au dialogue, alors il y aura des crispations de l'espace politique, la tension va baisser, on va s'accorder sur les préalables qui revendiquent l'autre camp, parce que nous avons vu que ce camp-là qui n'est pas au dialogue est écouté par la population, est suivi par la population. Mais pour mettre fin, il ne faut pas ici qu'on puisse se verser dans un égoïsme gestionnaire qui consiste à ne pas écouter l'autre camp. Ici, il faut ramener la paix. Le chef de l'État doit inviter ses partenaires de l'opposition véritable pour qu'ils se trouvent autour d'une table et s'accorder maintenant
d'accord
sur les questions à traiter.
D'accord.
C'est comme ça qu'il faut mettre fin à cette situation.
Merci Étienne Vivien Kalonji. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheur en résolution non violente des conflits. Vous intervenez depuis Kikuit. Merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.